Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir pour Priscilla et moi-même de venir à l'église de Saint-Maur partager des moments forts ensemble, mon louange, l'adoration, et aussi méditer la parole de Dieu. Un beau texte encore que celui-là. Donc, comme on a appris, vous êtes dans la série de Galates, un texte, une lettre géniale, parce qu'en fait, pour Paul, c'était pas une situation géniale. C'était une des rares églises, si ce n'est la seule église où Paul ne dit pas merci au Seigneur pour l'église. Parce que, je sais pas si on remarque, mais dans toutes les lettres, à chaque fois, je remercie Dieu dans Philippiens, dans Corinthiens. Je remercie Dieu pour qui vous êtes, ce que le Seigneur fait. Et là, dans Galates, il commence direct à leur parler en disant « Mais il se passe un truc de fou chez vous, là. Ça se passe mal. » Et pourquoi? Parce que simplement, ils ont remis en cause les bases de la foi. Donc, comme vous l'avez vu, comme Clément aussi l'a vu, la semaine dernière, la justification par la foi, et Paul lui-même se présente comme étant le résultat de cette justification. Et on va continuer donc maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on reçoit l'Esprit? Quelle est la base même de notre marche de chrétien? Et comment est-ce que la réception de notre Esprit doit impacter notre vie au quotidien en tant que chrétien? Et je vais prier pour que le Seigneur encore parle. On est convaincu que c'est vraiment sa parole qui veut nous parler, pas forcément moi. Quand Paul parlait aux chrétiens de Béré, il vérifiait que ce que Paul disait était en cohérence avec la parole de Dieu. Et bien, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous, que vous puissiez vérifier que ce que je dis est en cohérence avec ce que la Bible enseigne, et que ce soit la parole de Dieu qui vous transforme. Seigneur Dieu, si on lit ta parole, si on la médite, si on l'étudie, c'est parce qu'on sait que tu veux transformer nos vies, on sait que tu veux nous révéler ta personne et on sait que tu veux nous faire ressembler à Jésus. Béni sois-tu notre roi pour cette grâce immense. Et nous voulons encore te laisser pénétrer nos cœurs, te laisser transformer nos vies. Tu vois chaque personne qui est venue cet après-midi dans quelle disposition de cœur elle est. Nous voulons encore que tu touches chacun d'entre nous, que personne ne ressorte comme il est rentré, notre roi, mais que véritablement chacun ait une rencontre particulière avec toi, que ce soit à travers les chants, les prières, la parole de Dieu, la communion. Ton esprit, évidemment, éternel roi, que ce soit encore toi qui nous éclaire et qui nous donne de vivre la vie que tu veux que nous vivions. Au nom de Jésus. Amen. Galate sans intelligence. Donc Paul, il commence vraiment très très fort. Il leur dit, attendez. Vous avez vu que on peut pas vivre la vie chrétienne, on peut pas être sauvé par ses propres œuvres. Donc c'est véritablement une réalité. Voilà, comment est-ce que vous avez reçu la foi et l'Esprit de Dieu et la marche avec Dieu? Comment vous avez été sauvé? Il leur dit, mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu de vous? Donc on a vu le contexte pour ceux qui n'ont pas peut-être connu le contexte. Bonjour aux nouveaux, soyez les bienvenus. Et on a vu que Paul il dit la justification par la foi seule peut te sauver. Et c'est véritablement une grâce. Ce n'est pas tes propres efforts, ce n'est pas ce que tu as accompli. C'est véritablement que tu as cru ce que Jésus a fait sur la croix. C'est toi qui le reçois aussi. Et c'est ça que j'aime bien avec la foi chrétienne, ça commence pas parce que nous on fait, ça commence par ce que Dieu fait pour nous. La foi chrétienne ne commence pas par ce que vous faites pour Dieu. Je suis chrétien parce que mais d'abord je suis chrétien parce que c'est lui qui a commencé l'œuvre. C'est Jésus qui a commencé à accomplir quelque chose dans notre vie. Et c'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Et ces Galates, ils ont cru ça. Ils ont vraiment cru que oui, ce que Jésus a fait sur cette croix, ça nous concerne. Oui, que je sais pas par ma propre force que je vais être sauvé, mais c'est parce que Jésus est mort sur la croix et il a payé mes fautes devant Dieu. Et aujourd'hui, devant Dieu, je peux dire que je suis pardonné. Donc ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris et c'est lui qui a implanté cette église. Et il a donné sa vie pour eux, Paul. Mais là, quelque chose de grave qui se passe, qui sont en train de retourner les choses. Maintenant qu'on a reçu Jésus, on veut continuer par nos propres forces, par la loi. On veut que certains soient circoncis, ceux qui n'ont pas pu être circoncis, parce que la loi de Moïse dit que il faut qu'on soit circoncis. Donc il faut que tout le monde dans Galate soit circoncis. Même si on a accepté Jésus, on va continuer à accomplir les règles de la loi. Et là, Paul, il dit, mais attendez, non. C'est pas comme ça qu'on va arriver à cette vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il est vraiment fâché, on peut le dire. Presque en colère, où il utilise des termes très très forts. Il dit, vous avez commencé tellement bien. Pourquoi voulez-vous terminer par vos propres efforts? Il sait que la mesure de leurs efforts pour continuer la vie chrétienne est aussi efficace que leur mesure de leurs efforts pour être sauvés. Ça veut dire complètement inefficace. Galates sans intelligence. Et là, il les met en défi pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il est en train de leur dire. Parce que c'est très tentant dans la foi chrétienne aussi de se dire, j'ai des règles et je vais essayer de les accomplir pour être juste devant Dieu. Même si on est chrétien, on peut tomber dans ce travers. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de combattre. C'est ce que les Galates commençaient à croire. Quelles sont les règles? La règle, c'est la loi de Moïse. Accomplissons-la pour être sûr qu'on est juste devant Dieu. Et c'est comme ça qu'on va gagner la faveur de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va tenir ferme. C'est en regardant la loi de Moïse et en l'accomplissant. Et là, Paul, il leur pose cette question. Il leur dit, au verset 2, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Et là est toute la clé. « Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou est-ce en écoutant l'Évangile avec foi ?» Comment est-ce que vous avez reçu l'Esprit ? Est-ce que c'est quand vous avez fait tous vos efforts, et à un moment, je peux enfin recevoir l'Esprit de Dieu ? Je peux enfin recevoir son pardon, je peux enfin recevoir sa justice. Et souvent on l'entend, n'est-ce pas? Moi, j'ai quelques amis qui me disent avant de m'engager vraiment dans la foi, je préfère déjà régler mes problèmes, être un peu plus pur, être un peu plus saint. Et non, en fait, c'est le contraire. C'est parce que tu as des problèmes et que tu n'es pas pur et que tu n'es pas saint que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et donc Paul leur pose cette question. Comment avez-vous reçu l'Esprit? Est-ce par les œuvres de la loi? Est-ce par vos propres efforts? Ou est-ce par l'écoute de l'Évangile? Et vous avez répondu avec foi. Évidemment, la réponse, c'est par l'écoute de l'Évangile, quand vous avez répondu à la foi. Ils sont conscients que ce n'est pas par leurs propres efforts qu'ils vont recevoir l'Esprit. Eh bien, à cause de cette réponse, il leur dit, à cause du fait que c'est parce que la foi que vous avez eue en Jésus vous a donné l'Esprit, eh bien, continuez de même. Verset 3. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Et là, il leur donne quelque chose de merveilleux. Une promesse pour chacun d'entre nous, verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Et là, il y a vraiment cette balance dans la foi chrétienne. Qu'est-ce qui fait que tu es ce que tu es? Est-ce que c'est grâce à tes propres efforts? Est-ce que c'est grâce à ton éducation? Est-ce que c'est grâce à ce que tu as compris et que les autres n'ont pas compris? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que tu as écouté avec foi ce que Dieu a dit et tu as dit d'accord, je crois? Et ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Quels sont les domaines de notre vie où on cherche peut-être encore à faire nos propres efforts? Dans quel domaine avons-nous besoin de nous rappeler que c'est uniquement la grâce de Dieu qui nous permet d'accomplir cette vie chrétienne? La vie chrétienne est une vie avec un niveau très 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 élevé, n'est-ce pas? Je sais pas, est-ce que vous avez des versets qui nous montrent que la vie chrétienne, c'est franchement chaud? Qu'il faut vivre quelque chose de super haut en termes de critères et de rigueur? Je vous invite à vous tourner vers votre voisin et vous dites, voilà, ça, il y a ce verset là, je trouve qu'il est vraiment chaud à respecter, à honorer, à accomplir. Donc tournez vers deux ou trois personnes, c'est un petit groupe, et vous dites, voilà quelques versets qui sont assez chauds. Clément, Laurent, il veut partager avec d'autres personnes, c'est bon. qui sont assez élevés. Donc des versets que le Seigneur nous donne et dit voilà, c'est ça la vie chrétienne. Et vous dites non, mais franchement, c'est vraiment chaud à faire, quoi. Alors, je vous laisse partager avec votre voisin un ou deux versets que vous voyez qui sont des choses que Dieu nous demande, mais qui sont difficiles. Un verset dans la Bible où vous dites, tiens, ça, ce verset-là, c'est quand même difficile. N'hésitez pas à vous tourner par derrière. Hein. Vous pouvez vous tourner derrière vous. Voilà. Pour partager. Alors, la question c'est, avez-vous un ou deux versets de la Bible qui sont des versets de recommandation vis-à-vis des chrétiens et qui sont très très difficiles à accomplir ? Alors, encore 30 secondes. Alors, je vous propose de revenir. Je vous propose de revenir donc vers en grand groupe. Est-ce que une personne veut partager, quelques personnes veulent partager un verset que quelqu'un leur a dit et quand ils l'ont entendu, ils ont dit ah oui, effectivement, oui, c'est vraiment difficile. Est-ce que quelqu'un veut partager? Oui. Ah. N'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Pour compléter à ça, il y a effectivement un verset qui dit donc aimez même les ennemis. Donc c'est aimez-vous, mais permanentement, quoi, pas juste quand ça va bien. Donc tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre verset qui a été partagé? Vas-y, Laurent. Oui. On prie pas sans cesse, tout à fait. Merci. Oui, vas-y, Clément. Ah. Aïe. Tout à fait. Aïe. D'autres versets? Moi, j'ai un verset, c'est... Soyez parfaits comme... Votre Père Céleste est parfait. Soyez parfait comme Dieu. D'accord. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc aimez. Waouh, Seigneur, mais. Et en fait, c'est ça la vie chrétienne. Et on est appelé à vivre ces choses. On est appelé à viser ces choses-là. Mais juste avant, Paul a dit quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dimanche dernier que vous avez fait Galates chapitre 2. Oui. Est-ce que vous vous rappelez quelque chose que Paul dit qui est une belle espérance pour chacun d'entre nous? On va voir si vous avez écouté le message de Clément, surtout. Galates chapitre 2, je vous aide un peu, verset... verset 20, tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Amen. Si je vis, ce n'est... Merci beaucoup. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans ma chair, je la vis dans la foi. Et là, on a la clé de la réception de l'Esprit. On a la clé de la marche du chrétien. On a la clé de la communion avec Dieu. On a aussi la clé d'aimer, s'aimer les uns les autres. On a aussi la clé de prier sans cesse. On a la clé d'avoir la parole d'édification. La clé d'être parfait, c'est par la foi. La foi en Jésus qui vit en moi. Parce que c'est lui qui va vivre cette vie par moi et pour moi. Et c'est pour ça qu'il leur dit, attention, attention les Galates, vous avez commencé à croire en Jésus, c'est très bien, mais ne continuez pas par vous-même. Ne croyez pas que c'est par vos propres efforts que vous allez réussir à aimer votre prochain, à accomplir la loi, c'est pas par en vous faisant circoncire que vous allez plaire à Dieu. Et en faisant ces autres choses de la loi. Verset 4, verset 3. Après avoir commencé par l'Esprit, donc je sais que je suis sauvé, ah oui, ça c'est une réalité, merci Seigneur. Et je vais pas chercher à continuer cette marche chrétienne par mes propres forces. C'est par l'Esprit que nous allons accomplir toutes ces belles choses. Et l'Esprit et toutes ces belles choses sont reçues par la foi. C'est une réalité que si vous aujourd'hui, cet après-midi, vous savez que vous faites partie de la famille de Dieu, que vous avez été pardonné à cause de Jésus et que vous avez décidé de suivre Jésus, par la foi, vous pouvez dire « je vais être sauvé » et par la foi, vous pouvez dire « je vais marcher selon l'Esprit ». C'est la foi. Mais la première question peut-être qui doit se poser, c'est « as-tu reçu l'Esprit ?» Peut-être que parmi certains d'entre nous n'ont pas encore vraiment fait ce pas, que j'ai reçu l'Esprit, j'ai cru que Jésus est venu, est celui qui nous a rachetés, donc c'est marqué aussi, c'est Christ qui nous a rachetés, et c'est lui, par lui que j'ai l'Esprit. Et pour toi qui as reçu l'Esprit parce que tu as accepté Jésus, et tu dis, mais je sens pas vraiment l'Esprit, je vois pas vraiment l'Esprit agir en moi, alors, par la foi, demande au Seigneur de te remplir de son Esprit, de t'éclairer et de te guider. Parce que par la foi, tu le recevras. C'est une réalité. Modèle de foi, que veut dire la foi? On a un exemple d'Abraham qui est le père des croyants, que les juifs respectaient énormément. Et les juifs, chrétiens juifs qui mettaient le désordre dans Galate, honorer aussi Abraham. Et donc Abraham est un peu le modèle de foi. Et donc son histoire, en fait, c'est pour ça qu'on mentionne ici. Et son histoire, c'est quoi? C'est que Abraham, donc je ne sais pas si vous vous rappelez pourquoi est-ce qu'on dit qu'il a été le père des croyants. C'est simplement parce qu'il était prêt à sacrifier son fils quand Dieu lui a dit « Va et sacrifie ton fils Isaac, ton seul fils unique » pour qui j'avais mis la promesse, et Abraham était prêt à le faire. Et en effet, il y a plusieurs textes, on l'a lu tout à l'heure, Galates chapitre 3, verset 6, mais aussi en Romains chapitre 4, verset 3, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Abraham s'est dit, Dieu me demande de sacrifier mon fils, eh bien, je vais le faire. Et pourtant, pourquoi est-ce que ce sacrifice est un peu spécial? C'est parce que quand Abraham a eu Isaac, son fils, Dieu a dit, c'est sur ce fils que je mets ma promesse et que tu auras une grande descendance depuis Isaac. Voilà ce qu'il lui dit. Et là, il lui dit, bah, sacrifie-le. Donc Isaac n'avait pas l'âge d'avoir des enfants parce qu'il était jeune, il n'était même pas marié. Donc il n'avait pas d'enfants et Dieu lui dit, sacrifie-le. Abraham a dit, Dieu a dit une promesse, il a dit, j'aurai une descendance à travers Isaac. Et là, il me dit, sacrifie ton fils. En fait, Dieu va le ressusciter. Voilà, sa conclusion. Je crois que ce que Dieu dit est vrai. Et je crois que il faut que j'aille tuer mon fils. Donc, Dieu va le ressusciter. Voilà. Et donc, c'est ce que dit la parole. Abraham a vraiment cru. Et cela lui fut imputé à justice. Et comment on a su qu'il a cru? C'est qu'il a fait. Il est allé, il a amené son fils. Et au moment où il allait sacrifier son fils, un ange arrête Abraham et lui dit, tiens, il y a un agneau, fais un sacrifice avec l'agneau et tu es juste. Et là, c'était une ouverture. Une ouverture d'Abraham comme modèle de foi pour la suite, pour tous les croyants. Crois-tu ? C'est la chose la plus importante. La version second 21 dit, as-tu remis ta confiance ? Et c'est comme ça qu'on va marcher dans la foi chrétienne. Donc Abraham, prêt à sacrifier son fils. La question c'est, jusqu'où as-tu confiance en Dieu ? Jusqu'où avons-nous confiance en Dieu ? Je prends un des contextes les plus délicats que je connaissais, c'était le témoignage auprès de mes copains de l'école. Toujours eu un peu peur. Mais Dieu me dit, je suis avec toi. Et Dieu m'encourage à le faire. Sois un témoin, je suis avec toi. Un exemple simple. Est-ce que je suis prêt à dire, oui Seigneur, tu es avec moi, même si j'ai l'impression que je vais être la risée de mes copains, même si j'ai l'impression que il va se passer des choses pas très bien, tu es avec moi et tu m'encourages à le faire. On a des promesses, on a des ordonnances. Gardons la promesse et allons là où le Seigneur nous demande. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur te demande de faire avec cette promesse, je suis avec toi. Jusqu'où va ma confiance en Dieu ? La troisième partie de cette partie, c'est la notion de la loi. Pourquoi est-ce que Paul veut vraiment... Donc on a vu la première partie, c'est comment est-ce que je reçois l'Esprit ? C'est par la foi. Abraham, modèle de foi, ça nous pousse à nous dire, mais jusqu'où moi est-ce que je fais confiance à Dieu ? Et la troisième partie, c'est nous rappeler la logique de la loi. Et pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous enlever de cette logique ? C'est ce qu'on va voir. La logique de la loi, c'est un peu, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est tu as fait le bien, tu reçois le bien, tu as fait le mal, tu reçois le mal. Et ici, il le dit, ici, il dit, verset 12, la loi, c'est l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Et en général, je sais pas si vous avez remarqué, mais les religions sont un peu dans cette logique. C'est ce que j'ai fait de bien, eh ben je vais être béni. Ce que j'ai fait de mal, eh ben je vais être maudit. Donc l'homme qui mettra en règle, en pratique ses règles, vivra par elle. Ça c'est la logique de la loi. Et Paul il dit attention, si vous voulez rentrer dans cette logique, eh bien vous n'êtes pas le vrai parce que vous êtes tous pécheurs. Vous avez déjà tous fait des mauvaises choses devant la loi, donc vous devrez être punis. Et c'est une réalité pour tout le monde. Mais, merci Seigneur, en Jésus, en Christ, on reçoit la déclaration d'être juste. En Jésus, je sors de cette logique. Et donc, peut-être que des personnes ici dans cette salle sont encore dans cette logique de dire j'ai été béni parce que j'ai fait des bonnes choses. Ah, j'ai été puni parce que j'ai fait de mauvaises choses. J'ai eu cette mauvaise chose parce que j'ai mal agi. Dieu parle de la grâce de Dieu qui dépasse nos mauvaises actions. J'ai souvent des questions comme ça. Donc, est-ce que tu penses que j'ai pas trouvé de travail parce que j'ai fait cette chose avant ? Est-ce que tu penses que mon ami est mort parce que j'ai fait ça ? Ça, c'est la malédiction de la loi, oui. Mais en tant que chrétien, tu en sors. Tu es pardonné. Encore récemment, il y a 3 jours, une personne m'a posé cette question. Est-ce que tu penses que les difficultés qu'on a dans cette famille, c'est parce que on s'est marié et qu'on n'était pas chrétien quand on s'est marié, Mon conjoint n'était pas chrétien quand on s'est marié. Est-ce que la grâce enlève ces malédictions ? Oui, il y a une malédiction de la loi, mais en Jésus, elle disparaît. En Jésus, elle disparaît, cette malédiction. Ce qui est important, c'est la foi en Jésus. La foi dans sa parole. Christ nous rachète et nous délivre. Si on a transgressé la loi, oui, on mérite la punition, oui, on mérite la condamnation comme Jésus-Christ l'a reçu. Mais, par la foi, je crois que ce qui aurait dû arriver sur moi est arrivé sur Jésus. La punition que j'ai dû recevoir, c'est Jésus qui l'a reçue. Et, merci Seigneur, tu m'as permis de ne pas en être puni. Mais cette logique de la loi nous rappelle que le péché a une conséquence, mais que la foi nous libère de cette conséquence, la foi en Jésus. Question. Dans quel domaine de ta vie cherches-tu encore à agir par tes propres forces pour plaire à Jésus, pour plaire à Dieu? Et autre question qu'on a posée tout à l'heure, dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de l'esprit pour marcher? J'aimerais terminer avec cette image, je crois que certains ont entendu, mais c'est un monsieur qui achète un billet de croisière. Une croisière, il est très content. Enfin, j'ai accumulé assez d'argent pour acheter un billet de croisière. Et donc, il part en croisière, donc une semaine de croisière, et il est tout content. Et il se dit, moi, bon, j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'ai pas pris tout le pack, mais je vais ramener mon repas sur la croisière pour pas avoir à payer le buffet. Donc il ramène du pain, du jambon, du beurre et tout machin, et de l'eau et son propre eau. Et donc il part à la croisière. Et arrivé à la croisière, donc vous savez, le soir, tout le monde sort, et là il y a un grand buffet, mais magnifique, avec tout ce que vous voulez, magnifique. Et lui il se dit, moi je n'irai pas prendre parce que j'ai mon repas, donc comme ça je payerai pas le buffet. Et donc, tac, lui à côté, là, les gens, ils se goinfrent et tout. Et là, juste à côté, lui, avec son beurre, son pain, tout. Ah, vous inquiétez pas, non, c'est bon, c'est bon. Il est là et tout. Après, premier jour, deuxième jour, pareil, là, non, vous inquiétez pas. Alors, quatrième jour, le pain, il commence un peu à être aussi dur que, que ça. Il a de moins en moins d'eau. Et oui, je dis, bon, allez, bon, ouais, bon, tant pis, ça fait rien, mais. Cinquième jour. Là, il commence vraiment même à avoir soif. Il a soif et tout, et son pain, il est complètement rassis. Là, il se dit, bon, ils sont peut-être sympas, là, il voit la serveuse, et il dit, mais je vais au moins lui demander si elle peut me passer un petit jus, comme ça, au moins, j'aurai de quoi. Donc, il va voir la serveuse, et il dit, écoutez, excusez-moi, j'ai pas payé le buffet, quoi, mais est-ce que je peux avoir au moins un jus? Puis la serveuse qui regarde, il dit, vous avez acheté un ticket pour la croisière? Oui, mais j'ai pas payé le buffet. Non, mais le buffet, il est complètement intégré, hein, il est compris dans le prix de... Et donc ça fait 4 jours de disette, 4 jours où il cherche par ses propres efforts. Et prenons cette image pour nous. Dans quel domaine est-ce qu'on lutte? On se dit, par mes propres efforts, je ferai mon culte personnel, je lirai la Bible tous les jours, ou je sortirai de ce péché, ou je m'en sortirai et je viendrai. Dans quel domaine est-ce qu'on se dit encore par une bonne règle, des bonnes disciplines, je vais m'en sortir? Ou plutôt, Seigneur, j'ai accepté Jésus, s'il te plaît, aide-moi par la foi à marcher par Jésus. Seigneur, j'ai accepté Jésus, j'ai déjà le ticket de la croisière, donc j'ai accès au Saint-Esprit et toutes ses bénédictions. Et je ne suis plus sous la loi. Et j'aimerais juste terminer par ça, que nous puissions réfléchir dans quel domaine de notre vie on a besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, donc il y a Jésus qui donne beaucoup d'encouragement sur l'Esprit de Dieu, et il dit, vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est quand vous avez demandé, si vous êtes des mauvais pères, parce que nous sommes tous, si nous avons des enfants, parce que nous ne sommes pas parfaits, eh bien, si votre enfant vous dit donne-moi une pierre, donne-moi un pain, est-ce que vous allez lui donner une pierre? Donne-moi un œuf, est-ce que vous allez lui donner un serpent? Il dit, mais puisque vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste qui est dans les cieux vous donnera-t-il le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Donc si parmi nous, les gens se disent, Seigneur, j'ai tellement besoin de ton esprit, eh bien croyez que Dieu va vous le donner. Si vous avez accepté Jésus, il dit, mais crois que tu peux recevoir l'esprit pour marcher. Et ce que Paul dit en Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant ma vie dans la chair par la foi en Jésus-Christ. Ça peut être une réalité pour toi. Ce n'est pas Paul qui est une élite chrétienne, c'est pour chaque chrétien. Mais c'est juste par la foi. Crois que tu peux le recevoir. Et de ce fait, j'aimerais prier pour chacun d'entre nous maintenant. Et que nous puissions simplement reconnaître et demander l'aide à Dieu. Dieu nous a donné cet immense privilège de prier. J'aimerais prier pour toutes les personnes qui savent qu'ils ont besoin d'une manifestation spéciale de l'Esprit et d'être délivrés de la logique de la loi qui dit ce que tu as fait, tu le mérites, est-ce que tu as fait de bien, tu le mérites, ce que tu as fait de mal, tu le mérites. Non, aujourd'hui c'est la grâce de Dieu et c'est Seigneur, accorde-moi ta grâce et non pas ce que je mérite. Je vais prier pour chacun d'entre nous, en particulier pour tous ceux qui veulent justement recevoir une portion encore de l'Esprit pour les aider à avancer. Seigneur, merci pour cette grâce immense. Merci pour ce privilège immense. Merci pour ces bienfaits. Tu nous appelles à aimer nos prochains. Tu nous appelles à avoir des paroles d'encouragement. Tu nous appelles à nous éloigner du péché. Tu nous appelles à servir notre Église. Tu nous appelles à faire toutes ces choses qui semblent finalement difficiles. Mais par la puissance de ton Esprit, on peut les vivre. Que nous ne soyons pas comme les Galates, Seigneur, qui, commençant par l'Esprit, finissent par les œuvres de la loi. Mais que tu permettes encore à chaque personne ici présente de recevoir encore la puissance de l'Esprit pour continuer à avancer. Touche les cœurs, renouvelle-nous, transforme, renouvelle encore, éternel roi, tes enfants. Quel que soit le domaine que nous demandions avant à Dieu, qu'il agisse par son Esprit, quel que soit nos études, notre travail, notre famille, tous les domaines de notre vie, Seigneur, nous les remettons sous ta grâce et nous te demandons, Seigneur, aide-moi à le vivre par ton Esprit, non pas par mes propres forces. Au nom de Jésus-Christ, Amen.